Bonjour, aujourd'hui on va regarder de plus près plusieurs actualités africaines importantes, toutes datées du 5 mai via Africa Press.
Bonjour. Oui, des sujets assez variés qui touchent à des enjeux clés.
Exactement. On va parler ressources au Congo-Brazzaville, politique au Gabon, la question des armes au Sahel, et puis l'aide américaine. On essaye de voir ce qui se dessine.
À bon tour d'horizon, en effet.
Alors, commençons par le Congo-Brazzaville. Une enquête d'une association locale, l'ARPA de DH.
Oui, une asso de défense des droits humains et de l'environnement.
C'est ça. Elle pointe des pratiques assez inquiétantes dans l'exploitation minière et pétrolière au sud.
Le point clé, si j'ai bien compris, c'est l'absence de consultation des populations locales.
Tout à fait. Le fameux consentement libre, informé et préalable, le CLIP, bah, il semblerait qu'il soit souvent ignoré par les entreprises, majoritairement chinoises d'ailleurs.
Ah oui, et ça, ce n'est pas anodin. Ce principe du CLIP, c'est fondamental. Quand on passe outre...
Bah, les conséquences sont graves, d'après l'enquête. Pollution de l'eau, bien sûr, mais aussi des situations sanitaires critiques.
Comme cette histoire de déversement chimique par l'entreprise Wingwa, c'est ça ? À Chimonzi.
Oui, et Chitondo aussi. Ça obligerait les habitants à changer les toits de leur maison tous les 3 mois et à rester chez eux après 18 heures.
C'est énorme. Ça montre un impact direct très lourd sur la vie quotidienne.
On se demande comment le gouvernement congolais, qui a pourtant signé des accords internationaux, peut laisser faire ça ou en tout cas semble avoir du mal à encadrer.
Bah, c'est souvent une combinaison de facteurs, hein. La pression pour attirer les investissements, c'est une chose. Et puis, les capacités réelles de l'État pour surveiller, pour contrôler des grands groupes.
C'est limité, sans doute.
Voilà. Et parfois, les lois nationales elles-mêmes ne sont pas assez fortes ou simplement pas appliquées. C'est un équilibre très difficile à trouver. Les ONG, d'ailleurs, elles tirent la sonnette d'alarme et demandent une révision des politiques.
D'accord. Passons du terrain aux structures du pouvoir maintenant, au Gabon, suite à l'investiture du nouveau président, Brizoli Gingema.
Oui, le premier ministre sortant, Raymond Dong Sima, a démissionné. Classique.
Oui, mais ce qui est moins classique, c'est que le poste même de premier ministre, il disparaît.
Ah oui, ça c'est un changement majeur. Carrément.
La nouvelle constitution ne le prévoit plus.
Donc, on va vers un renforcement très net du pouvoir présidentiel. Un régime présidentiel pur, en quelque sorte.
C'est ça. L'exécutif est vraiment concentré. Il reste un poste de vice-président, mais...
Oui, occupé par Joseph Ouvondoldbert pendant la transition. Mais son rôle sera sans doute plus protocolaire ou peut-être stratégique, mais pas celui d'un chef de gouvernement.
Tout ça dans le contexte de la transition post-Ali Bongo, bien sûr.
Exactement.
Exactement.
Depuis août 2023.
Et il y a encore du chemin.
Oui.
Réorganisation électorale, les législatives qui arrivent en septembre ou octobre.
Absolument. Et le président Nguema va devoir composer son gouvernement, trouver le bon équilibre.
Entre qui et qui, justement ?
Bah, entre les figures de l'ancien parti au pouvoir, le PDG, l'opposition, et puis ses propres alliés, militaires et civils, qui l'ont porté pendant la transition. C'est un vrai jeu d'équilibriste.
On verra ce que donne ce premier cabinet, ça fera un signal.
Tout à fait. Rupture ou continuité ?
Bon, on file au Sahel maintenant. Une question qui revient toujours, d'où viennent les armes des groupes djihadistes ?
Ah, la question piège. Une enquête récente de Conflict Armament Research, CAIR, donne des pistes.
CAIR, oui, ils sont spécialisés dans le traçage d'armes.
Et ce qu'ils disent est assez frappant. En gros, environ 20% de l'arsenal des groupes comme le Djenim ou l'État islamique au Sahel viendrait directement du pillage. Des stocks des armées nationales, Mali, Niger, Burkina, mais aussi d'autres pays.
Donc quand ils attaquent une caserne, ce n'est pas seulement pour marquer le coup, c'est aussi pour se réapprovisionner.
C'est une stratégie d'équipement, clairement. Et ils s'en vantent dans leur propagande, ils parlent de butin de guerre.
Et ça veut dire quoi sur les autres sources d'approvisionnement ? Les fameuses puissances étrangères, ou Al-Qaïda, l'EI central ?
Mais justement... L'enquête de CAIR, elle, ne trouve pas de preuves solides d'un soutien logistique massif et régulier venant de l'extérieur. Ni de puissances étrangères spécifiques, ni même des maisons-mères.
Ah, intéressant.
Ça suggère que l'approvisionnement est avant tout local, opportuniste. Limité aussi par la logistique très compliquée dans la région, quoi.
Donc une dynamique de conflit qui s'auto-alimente en partie.
C'est ça, oui. Ça nuance beaucoup de discours.
Compris. Allez, dernier point, l'aide internationale. On regarde du côté des États-Unis avec le budget proposé pour 2026 sous l'administration Trump.
Oui, et là il y a des annonces de coupes assez sérieuses pour l'Afrique.
Quoi par exemple ?
Ben, la suppression de la contribution américaine au Fonds africain de développement, le FAD. C'est plus d'un demi-milliard de dollars.
Ah oui, quand même.
Et une coupe énorme, plus de 80% dans le financement de programmes internationaux pour la santé, l'agriculture, l'éducation. L'aide humanitaire aussi serait bien réduite.
Et pourquoi ? Quelle est la justification ?
Officiellement, c'est un recentrage sur les priorités stratégiques américaines et aussi une volonté affichée de lutter contre ce que l'administration appelle des dérives idéologiques, hein, sur le climat, la diversité, les droits LGBTQ.
Et c'est un sacré changement de cap potentiel. Mais vous disiez qu'il y a des nuances.
Oui, tout n'est pas coupé. Par exemple, le PEPFAR, le grand programme de lutte contre le sida, serait maintenu.
D'accord.
L'engagement envers l'IDA, l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, est aussi réaffirmé, avec plus de 3 milliards. Et chose intéressante, le budget de la DFC.
La DFC, c'est quoi déjà ?
C'est l'agence américaine qui finance le développement international, surtout via le secteur privé. Eh bien, son budget serait augmenté, à près de 3 milliards.
Donc, moins d'aide directe aux États ou à programmes sociaux classiques, mais potentiellement plus d'argent pour des projets d'investissement privé jugés stratégiques.
C'est exactement ça l'idée, semble-t-il. Favoriser l'investissement plutôt que l'aide programmatique large.
L'impact risque d'être très différent selon les pays, les secteurs.
Tout à fait. Ça pourrait fragiliser des systèmes de santé publique ou des programmes agricoles qui dépendent de l'aide traditionnelle. Mais d'un autre côté, ça pourrait booster certains projets d'infrastructure ou d'entreprise. Reste à voir si ces propositions passent et comment les pays s'adapteront.
Bon, si on essaye de résumer tout ça, on a vu des tensions fortes entre exploitation économique et droits locaux au Congo.
Oui.
Une reconfiguration profonde du pouvoir politique au Gabon.
Mmh.
Des dynamiques d'armement au Sahel qui sont finalement très locales.
C'est ça.
Et puis des incertitudes majeures liées au choix des grands partenaires comme les États-Unis sur l'aide.
Exactement. Et tout ça, bien sûr, c'est interagi. L'économie, la politique, la sécurité, l'aide extérieure, tout est lié.
Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour la suite.
Oui, comment est-ce que cette combinaison de pression, ressources, politique interne, insécurité, aide internationale fluctuante, comment tout ça va redessiner l'avenir immédiat de ces régions ? C'est la grande question, je crois.